Bonjour, vous êtes sur Radio Arménie pour Arménie, la fibre spirituelle avec Maxime Yevadian. Et nous allons traiter aujourd'hui d'une question particulièrement intéressante et originale, à savoir la place de l'Arménie et des Arméniens chez trois des plus grands peintres de la Renaissance européenne, à savoir Léonard de Vinci, Albert Dürer et Michel-Ange. Pour ce faire, nous avons aujourd'hui une invitée de marque, Chatke Matossian, qui est professeure à Bruxelles et qui travaille depuis plusieurs années sur la place de l'Arménie, du Mont Ararat et des Arméniens chez les artistes de la Renaissance. Bonjour Madame Matossian.
Bonjour.
Et ma première question est de savoir qu'est-ce qu'une philosophe comme vous a trouvé et de suffisamment important et intéressant pour consacrer plusieurs années de travail sur cette question, apparemment loin de la philosophie classique, qui est la place de l'Arménie et de leur spiritualité chez ces trois grands peintres de la Renaissance européenne.
Disons que pour les peintres de la Renaissance, je me suis toujours intéressée à l'art, puisque cela fait partie de mon domaine de recherche et que je travaille justement à l'Académie royale des beaux-arts à Bruxelles. Et donc, c'est surtout la relation art-philosophie sur laquelle je travaille. Et ce qui m'a particulièrement intéressée chez ces trois artistes, c'est qu'ils ont fait un autoportrait en relation avec l'Arménie. Et en tant que philosophe, je ne peux pas distinguer cela d'une recherche de spiritualité, justement, qui est très présente chez ces trois artistes à travers leurs écrits, l'ensemble de leur œuvre, et plus particulièrement une présence platonicienne liée à la grande question qui est celle de l'âme. Et donc c'est par ce biais-là que la philosophie va toucher, l'approche philosophique va concerner ces trois artistes.
D'accord, et vous avez une approche philosophique qui étonnera peut-être les lecteurs français, puisque vous consacrez un de vos chapitres à parler du philosophe allemand Fichte, qu'on connaît surtout pour son discours à la nation allemande, qui est très loin de ce qui vous intéresse. Et pourquoi avoir pris la pensée de ce philosophe allemand, finalement peu connu en France, pour éclairer la démarche que vous avez choisie?
Alors, Fichte est pour moi le philosophe essentiel. C'est celui qui m'a le plus marqué, qui m'a ouvert à quelque chose que les autres philosophes n'ont pas réussi à faire découvrir ou émerger. Et par chance, j'ai eu aussi comme professeur Marc Richir, et donc j'ai été amenée à l'idéalisme allemand à travers ce grand maître. Et là, je crois qu'il y a une question de la transcendance qui est abordée par Fichte de manière énergique et vivante. Mmh. Et c'est ce côté qui n'est pas justement un discours sclérosé, universitaire, qui n'est pas un amoncellement de savoir, mais au contraire, le faire jusqu'à cette vision du vivant, qui me semblait très importante dans le contexte dans lequel je travaillais, puisque justement il va être question de vision pour les trois artistes dont je m'occupe.
Bien sûr, comme par exemple Léonard de Vinci qui se voyait en visionnaire. Mais,
voilà.
Mais chez Fichte, il n'y a pas de référence explicite à l'Arménie, c'est vous qui avez pris...
Ah non, pas du tout. Là, c'était pour éclairer ce qu'est la vision, et donc qui n'est pas une représentation, et que pour essayer de montrer comment ces trois artistes veulent toucher à un au-delà de la représentation, qui est la vision.
D'accord.
Et du vivant, si je peux dire.
Mm-hmm. D'accord. Bon, bah écoutez, merci pour ce nouvel éclairage de Fichte, parce que vraisemblablement, il y aurait beaucoup de choses à découvrir chez ce philosophe en France, parce que d'après ce que vous nous dites, c'est très loin de la vision qu'on en a habituellement. Et donc, c'est grâce à sa perception, à la philosophie qu'il propose, que vous avez, si je comprends bien, essayé de mener une relecture de la place de l'Arménie dans la culture occidentale de cette époque, et en particulier chez ces trois grands artistes qui sont Léonard de Vinci, Dürer et Michel-Ange. Et avant de continuer sur cette thématique, on marque une première pause musicale.
Thank you.
Bonjour, vous êtes sur Radio Arménie pour Arménie la fibre spirituelle et nous continuons notre entretien avec Shaké Matossian pour son ouvrage Des admirables secrets de l'Ararat, Vinci, Dürer et Michel-Ange sur les traces de R et de Noé, ouvrage paru à Bruxelles en 2009 chez l'éditeur La Part de l'Œil. Donc on va peut-être commencer par essayer de cerner le contexte arménien de cette époque, puisque vous nous parlez d'Er, l'arménien, connu par Platon généralement, et de Noé, et pourtant ce sont a priori deux thématiques tout à fait éloignées, si ce n'est antagonistes.
Qui pourraient peut-être paraître comme cela, mais disons que bon, l'Arménie est plutôt connue à travers justement l'Arche de Noé, mais cette question de Noé retrouve celle du discours de Er l'Arménien chez Platon, par la question justement de la Renaissance.
Vous pouvez nous dire deux mots de ce que dit Platon de ce fameux Er l'Arménien, puisque peut-être que tous les éditeurs ne le connaissent pas.
Bien sûr. Donc Platon, dans La République, qui est quand même un des ouvrages très... Enfin, tous les ouvrages de Platon sont importants, mais La République est l'un des plus connus. Dans le 10e livre, c'est-à-dire à la fin de La République, il est question de l'immortalité de l'âme, comme il en sera question dans le Phédon, dans le Phèdre, dans d'autres discours. Mm-hmm. Et Socrate, pour prouver, pour démontrer l'immortalité de l'âme, pour parler de l'immortalité de l'âme et de la résurrection, et de la transmigration des âmes, fait appel à un discours qui est celui de Er l'Arménien. Et donc il parle en tant que récepteur d'un discours qui vient d'un autre et qui est celui d'Er l'Arménien, un vaillant soldat qui a eu le privilège d'aller dans le monde des morts pour témoigner justement de ce qu'il a vu. Et donc il est le seul parmi tous ceux qui étaient avec lui à ne pas avoir été trempé dans le fleuve du Léthé. Donc il n'a pas oublié ce qu'il a vu, parce que justement sa mission est de sauver l'humanité. Hein, et c'est vraiment les mots qu'utilise Socrate. Il est là, si on croit à ce discours, il nous sauve, etc. Donc il y a quelque chose de sauver l'âme qui dépend de ce Er l'Arménien.
Donc on dit
Socrate. Et il dit, voilà, moi je vous raconte, et puis il parle à des sophistes, à Calliclès, et il lui dit, bon voilà, tu crois que je raconte une fable, eh bien c'est ton droit, mais ce ne sont pas des fables que je te raconte. Voilà. Donc pour Platon, c'est quelque chose d'important.
Donc ce mythe a eu, dans la philosophie platonicienne durant l'Antiquité, une importance tout à fait considérable, mais ce qui est peut-être assez nouveau dans votre ouvrage, c'est que vous nous expliquez qu'à la Renaissance, pour les hommes de la Renaissance dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, il y a eu une relecture et une relecture néoplatonicienne qui a été aussi assez considérable.
Oui, ça, je ne pense pas que ce soit moi qui apporte quelque chose sous ce point de vue-là. Il y a des grands spécialistes du néoplatonisme à la Renaissance dont je ne fais sûrement pas partie. Mais bon, donc là, on voit bien, avec évidemment l'invention de l'imprimerie, le fait que Platon, justement, soit imprimé chez Aldemanus, traduction de Ficin, commentaire de Ficin, que tous les artistes de la Renaissance lisent, côtoient. Enfin, donc c'est vraiment un bain platonicien, un engouement pour Platon qui est très important. Et on va voir les répercussions de cela, par exemple, chez le mystique Guillaume Postel, auquel je fais aussi référence, pour montrer l'ambiance dans laquelle travaillent ces artistes, même si Postel est de quelques décennies postérieures à Dürer, par exemple.
Qui est Guillaume Postel, pour ceux qui ne le connaissent pas?
Oui, est un mystique du XVIe siècle qui a eu une grande révélation à Venise. Donc il est français, il fait des grands voyages, il est assez illuminé, on va dire, et il fait aussi un voyage en Orient, il apprend toutes les langues orientales, enfin quelqu'un de très particulier. Et à Venise, il est vraiment là, il a des révélations, des illuminations, et puis c'est suite à cela qu'il écrit ce livre dont je me suis servi, des admirables
secrets.
Non.
Ah pardon.
Justement, je me suis servi des admirables secrets des nombres platoniciens. Et alors, c'est un peu en hommage à Postel que j'ai choisi le titre de mon ouvrage. Mmh. Et là, donc dans ce livre, Postel dit voilà, c'est pas par hasard que Platon a choisi le même lieu que Noé. Hein, donc voilà, le R,
c'est ça.
L'arménien, c'est cela, etc. Donc pour Postel, c'est une évidence. Hein. C'est sûr que toute la question de la résurrection, de la transmigration des âmes, de l'immortalité de l'âme, est liée à ce lieu de l'Arménie. La preuve, c'est Platon.
Et donc là, quelque part, l'Arménie permet de faire le lien entre R et la philosophie platonicienne d'une part, qui était très à la mode, comme vous le dites, et d'autre part, entre tout l'héritage chrétien.
Absolument, absolument. Donc ça, ce que j'ai essayé de démontrer dans mon livre, et c'est là peut-être que j'apporte peut-être quelque chose, c'est que seule cette référence à l'Arménie, le fait de se situer pour Léonard de Vinci, pour Dürer, pour Michel-Ange, en Arménie, dans une situation catastrophique chaque fois, tragique, dramatique,
bien
mortelle,
sûr.
Hein, dans les trois cas.
On va y venir, oui.
C'est une façon d'aborder la question de l'âme, qui est vraiment la grande question, et sans être antichrétien, et donc de pouvoir faire grâce à l'Arménie la jonction entre le christianisme et le platonisme.
D'accord. Et pour continuer sur cette question de la place de l'Arménie, vous consacrez deux chapitres particulièrement bien illustrés sur, d'une part, un saint bien connu des Florentins, Miniato, et d'autre part, sur une légende dont le fond historique n'est pas certain, mais ce n'est pas tellement ça qui vous intéresse, les 10 000 martyrs de la Légion de l'Ararat. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous avez choisi, par exemple, de parler de saint Miniato dans cet ouvrage qui parle de la Renaissance?
J'ai choisi d'en parler dans la mesure où saint Miniato a ceci de particulier, que Florence doit sa christianisation à ce saint arménien. Et que, d'une certaine manière, les trois artistes sont concernés, puisque Léonard de Vinci est florentin, Michel-Ange est florentin, ils connaissent très bien leur ville, bien entendu, et Sainte Miniato occupe vraiment une place fondamentale pour les Florentins. Et ce qu'on voit d'ailleurs dans des récits aussi contemporains que j'ai pu citer. Et
à commencer par le récit de Léonard lui-même, oui.
Pardon?
Je dis à commencer par le récit de Léonard lui-même qui parle, vous l'écrivez, de la basilique de San Miniato comme un monument particulièrement cher à son cœur.
Oui. Alors qu'on va, par exemple, Michel-Ange aura défendu, calfeutré les remparts de San Miniato pour vraiment que le campanile ne soit pas attaqué ou abîmé par les invasions. Donc c'est quelque chose. Et comme Albert Dürer est lui-même influencé, ou en tout cas qu'il est très attentif à l'œuvre de Léonard de Vinci, bien sûr, il y a aussi une continuité par là. Mais bon, disons que pour Albert Dürer, c'est plutôt Venise qui va être important. San Miniato me semblait essentiel pour Vinci et Michel-Ange, qui sont aussi à la suite de Dante, qui est quand même un auteur très important pour tous les peintres de la Renaissance. Et Dante cite San Miniato dans sa Divina Commedia.
D'accord. Venons-en maintenant au plus connu peut-être des trois artistes dont vous parlez, Léonard de Vinci, dont le nom a déjà été prononcé plusieurs fois. Quel est le lien que vous faites entre donc peut-être le plus connu des maîtres de la Renaissance et l'Arménie?
Ce lien, c'est donc à partir des œuvres, des écrits de Léonard. Il y a des textes de Léonard, des lettres de Léonard, qui sont d'ailleurs connus par quand même certains arméniens, disons que c'est peut-être pas une nouveauté pour les auditeurs arméniens, mais Léonard se dit ambassadeur en Arménie, et donc il y a une lettre avec des dessins, et ce qui m'intéresse c'est aussi ce côté graphique double à la fois d'écriture et de dessin, où il se situe dans une situation, enfin dans un déluge, ou disons une ambiance diluvienne, au milieu de catastrophes, et il dit, voilà, je suis ici, je souffre avec les gens du pays, on se réfugie dans les ruines des églises, enfin, donc c'est quelque chose, c'est une lettre assez forte, et bon, alors bien sûr, suite à cela, il y a eu beaucoup de recherches de la part des universitaires, des historiens de l'art, est-ce que Léonard est vraiment allé en Arménie ou pas. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé, parce que c'est le document qui m'intéresse. Lui, le document existe, que ce soit une fiction de la part de Léonard ou une réalité, enfin ce que nous appelons habituellement et platement réalité, je pense pas que ce soit tellement crucial, en tout cas pas pour mon propos, puisqu'on le voit bien avec l'œuvre de Dürer aussi, il se situe bon, dans un Ararat imaginaire. C'est cette Arménie fictive, fantasmatique, mystique qui m'importait, plus que de savoir si vraiment il est allé...
Oui, quel que soit le fond historique, la réalité qu'il s'est dépeint en Arménie.
Voilà, c'est ça. Il y a la réalité de l'œuvre qui est là. Et c'est celle-là qui m'intéresse. Et c'est la même chose pour le martyr des 10 000, hein, que ce soit
oui,
une légende ou quelque chose.
On reviendra sur oui. le martyr, mais là, un des éléments que vous indiquez dans votre ouvrage et qui est particulièrement intéressant est de dire que Léonard de Vinci se décrit au moment apparemment de quelque chose qui est une sorte de renaissance pour lui, comme étant en Arménie. Et ça, c'est vrai que c'est quand même particulièrement intéressant, que cela ait été historique ou pas.
Et là, je pense que c'est le côté chrétien de Noé, puisqu'il y a toutes ces images du déluge qui font partie de l'œuvre de Vinci constamment,
oui.
Et qui reviennent là dans la lettre avec les dessins. Donc c'est vraiment la question de la Renaissance.
C'est ça. D'accord. Donc pour Léonard de Vinci, on voit déjà que l'Arménie occupe une place tout à fait considérable dans son, on va dire, cheminement intérieur. Ensuite, vous parlez longuement dans un chapitre particulièrement développé de Dürer qui se décrit, qui se peint lui-même sur le mont Ararat au moment du martyr des 10 000. Qu'est-ce que c'est que ce martyr des 10 000?
Oui, alors le martyr des 10 000 est une légende qui est connue à l'époque de Dürer. On voit qu'il y a, donc comme vous avez pu remarquer dans le livre, j'ai reproduit beaucoup d'œuvres qui sont vraiment partout en Europe. Donc le martyr des 10 000, alors pour dire l'histoire, on la trouve chez l'abbé Dévaux, qui la raconte succinctement, enfin moi je reprends succinctement ce qu'il dit. C'est donc sous le règne d'Adrien, au 1er siècle, que l'Arménie fait partie de l'Empire romain. Adrien, ayant profané les lieux sacrés, se voit puni par la divinité, justement sur le flanc oriental de son empire, donc en Arménie. Alors c'est donc l'invasion des Perses, et l'armée arménienne qui travaille pour Rome à ce moment-là doit défendre l'Empire. Mais ils sont trop peu, donc c'est une espèce de déroute. Mais il y a 9 000 soldats très vaillants qui implorent leur Dieu. Et voyant leur courage, Dieu leur envoie un ange qui les instruit de la religion chrétienne et qui les engage qui leur donne le courage. Et donc, ils sont à la fois illuminés et à la fois vainqueurs. Et ensuite, quand les renforts romains arrivent, ils sont très fâchés de voir que les 9 000 ont eu la victoire sans eux, et qu'en plus, ils sont convertis au christianisme. Donc, ils les enjoignent de revenir à leur religion romaine. Et, comme les 9 000 sont convertis, ils ne veulent pas. Donc les Romains les attaquent, mais il y a un miracle qui se produit, les armes se retournent contre les attaquants, donc il y a 1 000 Romains en plus qui se convertissent, et donc ça fait 10 000 qui sont de nouveau guidés par l'ange sur le mont Ararat, où ils vont être crucifiés, ils vont donc vivre la passion du Christ et mourir en martyr avec cette vision sublime.
D'accord, on comprend qu'une telle légende puisse avoir eu un écho considérable au Moyen-Âge, mais quel est le lien avec Dürer?
Alors là, de nouveau, à mon avis, c'est ce que j'ai essayé de montrer, ce sera la question de l'âme, et vraiment une question spirituelle qui me semble importante. Parce que les 10 000, c'est une commande. Mais en même temps, Dürer est très intéressé lui-même à cette œuvre, puisqu'il avait précédemment fait un dessin, une gravure, donc il représente le motif des 10 000 selon 3 techniques différentes. Donc,
et sur une dizaine d'années, vous écrivez, si
oui,
je me souviens
oui.
bien.
Alors, ce qui m'a surpris, c'est que Panofsky, qui est quand même la référence pour Dürer,
oui.
ne dit rien de ce tableau. Des choses très futiles, quoi. Il peint son manteau à la française, enfin des trucs ridicules. Et donc je me suis dit, mais pourquoi? Alors en plus, le tableau est connu comme le martyr des 10 000. On ne sait pas où, quoi, ni quel 10 000. Et
oui.
En fait, c'est le martyr des 10 000 sur le mont Ararat, ce qui est le titre qu'on trouve chez Carpaccio, par exemple. Mais bon, Carpaccio ne fait pas un autoportrait. Ce qui m'intéressait, moi, c'était les autoportraits.
Bien sûr.
Et donc, pourquoi Vinci ce pain-là? Et ce que j'ai essayé de démontrer, pour aller vite, c'est que, bon, pas Vinci,
Durer.
pardon, que Dürer, ce pain-là. Et ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que Dürer, qui fait quand même beaucoup d'autoportraits, fait des autoportraits en Christ, donc la question évidemment spirituelle est très importante chez lui, c'est
oui.
quelqu'un de passionné de reliques, qui est très attentif au jour des saints, il est très, très pieux. Et il y a des autoportraits de Dürer où il montre les endroits où il est malade, il y a des autoportraits en Christ, des autoportraits en homme de douleur. Et puis, là, il y a cette fameuse mélancolie aussi, l'ange noir de Dürer, qui, à mon avis, est un autoportrait de son humeur. Et donc, je crois qu'il a fait des autoportraits du corps, des autoportraits de l'humeur, et que ici, il s'agit d'un autoportrait de l'âme, ou de la question de l'âme. Parce que les 10 000 sont ceux que l'on invoque au moment du trépas, et donc qui font le passage, qui aident au passage, si vous voulez.
D'accord, oui.
Et comme lui-même, en plus, s'appelle Porte, Dürer veut dire, comme en arménien d'ailleurs, Touj, qui veut dire porte, il y a quand même ce côté-là aussi qui est intéressant.
Oui, d'accord. Donc, cet autoportrait aurait une place particulièrement significative dans toute l'œuvre de Dürer.
Et ce qui expliquerait... Pour moi, c'est vraiment c'est une protection de son âme. Je crois que vraiment, il a réalisé un tableau apotropaïque, on va dire, protecteur, pour protéger son âme au moment du trépas. Il tient d'ailleurs dans le portrait, il tient une pancarte et disant voilà ce que a fait Fatschebat, Dürer allemand à telle date, etc. Donc il le tient d'une manière qui correspond, et ça j'ai amené le texte de Platon pour cela, qui correspond exactement à ce que dit Platon dans le mythe d'Er, lorsque Er raconte ce qui arrive aux âmes. Il dit voilà, les âmes qui ont fait le juste, le bien, etc., montent avec une pancarte montrant ce qu'elles ont fait en tenant cette pancarte par devant, et ceux qui, au contraire, vont être refusés auront leur pancarte par derrière. Et là, on voit bien que Dürer tient par devant une pancarte sur laquelle il met ce qu'il a fait, Fatschebat. Donc là, je crois que, de nouveau, on peut faire le rapprochement avec le texte de Platon, et je suis tout à fait convaincue qu'il s'agit d'un autoportrait qui concerne son âme.
D'accord, ça paraît assez évident à vous entendre. Et est-ce que Dürer a fait un autre autoportrait de lui dans cette perspective-là, ou c'est vraiment l'unique autoportrait de son âme?
Pour moi, c'est le seul.
Ah oui.
Mais il a fait des autoportraits en Christ.
Oui, donc, oui, qui sont connus, bien sûr.
Qui sont connus. Enfin, plus connus, disons, qui plus travaillés. Sur le martyr des 10 000, il y a très peu de choses, en fait. Il n'y a jamais eu, en tout cas à ma connaissance, les rapprochements, sauf avec celui de Carpaccio, avec tout ce contexte des 10 000, où j'ai montré, en repérant les illustrations, en allant photographier moi-même dans des petits villages perdus d'Allemagne, etc., des retables représentant les 10 000. Donc c'est quelque chose qui, fin du Moyen-Âge, Renaissance, est vraiment important.
D'accord.
Et connu. Donc lui, à son époque, n'a pas besoin de mettre martyr des 10 000 sur le mont Ararat, parce que tout le monde le sait.
C'est ça, exactement.
Mais nous, aujourd'hui, on ne le sait pas. Personne ne le sait.
D'accord. Donc cette place christique de Dürer au milieu donc, de ces personnages représentés en croix est vraiment quelque chose apparemment d'assez extraordinaire qu'on ne retrouve pratiquement nulle part.
Nulle part chez Dürer, vous voulez dire ?
Oui, oui.
Je pense pas. Je pense que ça va dans le même sens que l'ensemble de l'œuvre du Dürer, où justement, et c'est là que ça rejoint Fichte, il s'agit de montrer le vivant. Hein, donc quelque chose qui est au-delà de la représentation. Quelque chose qui mène à un ailleurs. Ou disons que cette peinture serait comme un support pour pouvoir faire un bond au-delà de ce qui est représenté.
D'accord.
Et on voit bien d'ailleurs ce que dit Erasme de Dürer. Il dit, il arrive à représenter l'irreprésentable, la voix même. Hein, donc ça, c'est vraiment crucial, c'est vraiment le côté vivant du discours, hein, c'est pas les paroles, les mots, etc., c'est au-delà de ça, la voix, le souffle. Hein.
Ce qui est très intéressant, c'est que votre étude arménologique permet de lire une partie de l'œuvre de Dürer d'une manière apparemment particulièrement nouvelle et particulièrement saisissante et qui se rapproche de ce qu'il avait voulu faire. Et c'est quand même assez intéressant qu'à travers l'Arménie, on arrive à retrouver une partie de l'œuvre de Dürer que peut-être les chercheurs qui vous ont précédé ont un peu marginalisé.
C'est peut-être la chance justement d'être arménienne qui a fait que j'étais attentive à ce tableau-là et que j'ai voulu voir, enfin creuser ce qu'il en était et justement pourquoi il y a un autoportrait sur un mont Ararat complètement imaginaire. Là, bien sûr, le fait d'être arménienne
Vous a aidé.
m'a aidé, bien entendu.
On ne peut pas terminer sans aborder le dernier chapitre de votre ouvrage pour un des très très grands peintres de la Renaissance, Michel-Ange. Qu'est-ce qui vous a interpellé sur Michel-Ange et qu'est-ce qu'on peut mettre en lien entre cet homme et l'Arménie?
Michel-Ange s'est peint, alors Michel-Ange qui est sculpteur, il n'aime pas être peintre, hein, comme il le dit lui-même dans ses sonnets. Il s'est peint dans le Jugement dernier sur la peau de Saint-Barthélemy. Et Saint-Barthélemy est l'apôtre des Arméniens.
Bien sûr.
Dans la légende dorée qui est utilisée par tous les peintres de la Renaissance, qui
Oui,
est
qui est
vraiment l'ouvrage de référence,
un des best-sellers de la fin du Moyen-Âge.
absolument, et qui reste sans doute un best-seller d'ailleurs. La légende dorée raconte que Saint-Barthélemy est écorché en Arménie. Donc se mettre sur la peau de Saint-Barthélemy, avec Saint-Barthélemy qui tient cette peau, hein,
Oui.
c'est vraiment se mettre en relation directe, être dans la peau de Saint-Barthélemy et par là même se connecter à l'Arménie. Alors
D'accord.
je crois que, enfin quand je dis je crois, il y a eu beaucoup de démonstrations, beaucoup, enfin pas tant que ça, des démonstrations sur le côté mystique de Michel-Ange, par exemple dans la chapelle Sixtine.
Où le jugement dernier représenté?
Oui, mais je veux dire les voûtes de la Sixtine ne sont compréhensibles que par une voie mystique, comme l'ont montré plusieurs chercheurs, et je crois que celui qui a ouvert la voie de cette interprétation, c'est peut-être Michelet, qui
Oui.
appelle Michel-Ange prophète.
Donc une sorte d'initiation graduelle.
Oui, peut-être, oui. Et dans le Jugement dernier, donc il y a cette connexion avec Saint-Barthélemy. Alors bien sûr, en même temps, mais là ce serait un petit peu long, l'écorchement de Saint-Barthélemy rend un écho à celui de Marsyas, Marsyas auquel est comparé Socrate
Oui.
dans le banquet. Et donc on a encore cette jonction qui peut se faire via l'écorchement entre Socrate et Saint-Barthélemy, c'est-à-dire une jonction de nouveau entre christianisme et platonisme.
Voilà, on voit bien qu'un des points cruciaux pour ces artistes est d'arriver à ne pas faire d'opposition entre à
Voilà.
la fois leur foi chrétienne et la philosophie
Absolument, absolument,
platonicienne.
et de sauver leur âme. Hein. C'est à chaque fois une question du jugement aussi, de la résurrection, de la renaissance. C'est la question de l'âme, ça c'est sûr. Oui. Et là, on voit que ce qui est beau aussi, je crois, et intéressant, et peut-être ce qui me semble devoir être actualisé, c'est ce lien entre l'Orient et l'Occident,
À travers l'âme.
à travers cette question-là de l'âme, et pour comment, justement, chez ces artistes, il n'y a pas cette division entre l'Orient et l'Occident. Enfin, il y a ce lien, en tout cas, qui passe par une certaine mystique, peut-être, et par un christianisme profond. Hein, parce qu'en même temps, ce que Michelet entend bien dans les voûtes de la Sixtine, c'est une critique du pouvoir du pape. Donc
Oui.
dans tous les cas, il y a une position qui n'est pas en accord avec l'Église officielle, mais qui est avec la source du christianisme.
D'accord. Tout ça est passionnant et on aurait encore fort à dire sur votre ouvrage, mais malheureusement, l'heure tourne. Et je redonne le titre de cet ouvrage pour ceux d'entre les auditeurs qui voudraient aller plus loin et regarder ces très belles illustrations, lire les notes de bas de page où il y a des pépites absolument extraordinaires. Il s'agit donc des admirables secrets de l'Ararat, Vinci, Dürer, Michel-Ange sur les traces d'air et de Noé, publié à Bruxelles en 2009 à la part de l'œil. Dans la collection Théorie par mon invité de ce jour, Chaké Matossian, que je remercie une fois de plus.
Merci à vous.
Au
Merci
revoir.
beaucoup. Au revoir.